Eugène de la Margerie, Conte d'automne, Histoire de la jambe de bois, Babylas. Du temps que j'habitais boulevard de la Tour Beaubourg, je rencontrais souvent, par les rues et les quais ou sur l'esplanade, un jeune invalide à la jambe de bois. Dès la première fois que je le vis, je me sentis pour vers lui porté par je ne sais quel attrait sympathique. Tout invalide qu'il fût, il aimait beaucoup la promenade, qui est une de mes passions. Il lisait presque toujours de petits livres, et moi j'en écris. Certains soirs d'été, que nous étions assis tous deux sur un des bancs de l'esplanade, comme il tirait son bouquin de sa poche, je reconnus, suspendu, le titre du bouquin. C'était la première de ma plume, ce livre que j'écrivais à Rome, où il y aura tout à l'heure 30 ans, les 50 proverbes. Je pris quelques renseignements. À peine avais-je commencé de lire son portrait, qu'on me dit « Mais c'est Babylas, Babylas le Breton !» Le lendemain, comme nous nous retrouvions à peu près à la même heure sur le même banc, j'abordais le jeune invalide. La connaissance ne fut pas longue à faire. Au bout de 8 jours, nous étions devenus intimes. Babylas n'était pas un grand savant. Ses manières n'étaient pas d'un marquis, mais il joignait à beaucoup d'esprit naturel un si heureux caractère que, soit dit sans l'ombre de modestie et simplement pour rendre l'hommage à la vérité, c'était toujours moi qui gagnais à nos causeries. Il avait une finesse d'observation extraordinaire, une manière de dire pittoresque et charmante. Oh, je lui dois plus d'une page de mes petits livres et des mieux réussis, plus d'une de ces mots trouvés qui font la joie de l'écrivain avant de faire celle du lecteur. Ce que j'aimais surtout en lui, c'était cette naïveté, cet élan avec lequel il s'écriait souvent, et semblait-il à propos de rien, « Oh, que je suis donc heureux !» Tant d'autres à sa place se fussent estimés misérables. À 30 ans, avoir une jambe de bois, dure ainsi que, devenue impropre à toute besogne tant soit peu active, rendre ses invalides, au moment où il semble qu'on entre seulement dans la vie, vrai, pour voir le bonheur, il faut avoir l'esprit bien fait. En ma qualité de conteur, le conteur ne sort jamais sans un brin de curiosité, car cela fait partie de son outillage. J'avais toujours désiré savoir d'où venait cette jambe de bois. « Est-ce à la guerre que vous l'avez attrapée ?» lui disais-je. Et lui, « Non, non, par accident, à Carcassonne, dans un incendie. » Puis, comme j'allais insister, il détournait la conversation. Quelques jours plus tard, Babylas vint à notre rendez-vous sur l'esplanade avec un camarade, le vieux Rigolet. La conversation étant tombée de nouveau sur la jambe de bois et son origine, Babylas rougit et Marie-Lenée rigolait de me dire « Oh, si vous voulez cette histoire, la savoir, je vous la raconterai par le menu. Personne ne sait la mieux que moi. » Babylas lui jeta un regard si suppliant que Rigolet s'arrêta tout court. L'entretien prit une autre direction. Mais je savais qui me pouvait renseigner. Et un jour que je venais de quitter Babylas, comme je rencontrais Rigolet, je lui dis « Mon bon monsieur Rigolet, Vous savez l'histoire de Babylas et de sa jambe de bois, mais contez-la-moi donc. Je suis sûr qu'elle est à son honneur. Oh, je crois bien qu'elle est à son honneur. Et à la honte de je sais bien qui. Je vous la dirai cependant, et bien volontiers, mais à la condition que Babylas n'en saura jamais rien. Je promis, et si je reproduis aujourd'hui le récit du vieil invalide, c'est que ce bon Babylas est depuis plus de 6 mois dans un monde meilleur. Donc c'est Rigolet qui parle. Quand Babylas nous arriva du régiment, c'était au printemps de 1860, si j'ai bonne mémoire, il eut d'abord un succès de fou rire. Il était frais, rose, timide et doux, comme une jeune fille. « Et d'où êtes-vous, mademoiselle ?» lui demanda un mauvais plaisant. « Votre serviteur, oui. D'où êtes-vous et comment vous montre-t-on ? Comment vous nomme-t-on ? Geneviève, Suzanne ?»« Pardon, monsieur, répondit le nouveau venu, je ne suis pas une demoiselle. Je suis natif de Quimper-Corentin et je m'appelle Babylas le Herbeur. Ces deux noms hétéroclites, cette provenance de Quimper-Corentin redoublèrent mon hilarité. Si Babylas avait été susceptible, s'il avait mal pris la plaisanterie, nous lui aurions fait la vie dure. Mais le garçon avait du bon sens. « Messieurs, dit-il, je suis heureux de penser que je vous cause une telle joie. » Et de rire, lui aussi, à gorge déployée. Mais ce n'était rien encore. Le soir, avant de se coucher, Babylas se mit à genoux et fit sa prière. Du moins, il voulut la faire, car ce furent dans la chambrée des cris, des battements de mains, ironiques, de trépignements, une vraie émeute, quoi. Babylas essaya de raisonner les camarades. À qui fallait-il tort en s'agenouillant et en priant le bon Dieu ? Autant chercher à raisonner des animaux fantastiques qui tiendraient en notre temps de l'âne et du tigre. Quand l'orage fut un peu calmé, « Écoutez, chers messieurs, dit notre petit Breton, vous pouvez dire tout ce que vous voudrez. » Rien ne m'empêchera de faire ma prière, parce que c'est mon devoir. On peut renoncer à un droit, à un devoir, jamais. Alors on l'appela calotin, cagot, cafard, jésuite. Le lendemain, le surlendemain, pendant 8 jours, la même scène eut lieu. Cependant, quand on vit que rien ne pouvait le faire plier, Babylas, on commença à tenir sur son caractère en une secrète estime. Puis on ne put s'empêcher de voir que notre homme, après tout, était un excellent soldat, attentif, obéissant, désireux d'apprendre, ne plaignant jamais sa peine. C'était en même temps un camarade incomparablement obligeant, aimable, ni bourru ni quinteux, toujours prêt à faire non seulement sa besogne, mais celle des autres, d'une bonne humeur absolument inaltérable. Jamais il n'avait, je ne dis pas insulté, mais désobligé, même légèrement, le dernier des enfants de troupe, ce qu'il avait bousculé, houspillé, brutalisé à propos de sa prière ou de la messe du dimanche. Il était toujours prêt à le rendre service, 1001. Donc on ne pouvait faire autrement que l'estimer. Babylas, non seulement l'estimer, mais l'aimer. Sur ces entrefaites, le régiment partit pour l'Algérie. Il y eut précisément alors une grande révolte des Arabes. Et le régiment donna. Et parmi les plus durs à la fatigue, les marcheurs les plus intrépides, parmi les plus braves au feu, on distinguait tout de suite Babylas. Un lion en temps de paix, dès que la bataille s'engageait, c'était un lion. Et quand je parle de l'estime et de l'affection générale pour Babylas, il n'est que juste de dire que deux ou trois mauvaises têtes faisaient exception. Et de ces mauvaises têtes, j'étais la pire assurément. Je continuais de dire « quac, quac » quand Babylas passait. Je lui jouais à la belle journée tous les mauvais tours imaginables. Et savez-vous comment il se vengea? C'était en 1861. Nous étions de nouveau en France, casernés au grand quartier de Carcassonne. Je ne sais plus à quelle occasion, tous les sous-officiers du régiment, nous étions alors sergents, Babylas et moi, furent invités à un grand repas de corps qui se donnait dans une immense salle, l'une des entrées de l'hôtel de ville. C'était en 1861. Nous étions de nouveau en France, casernés au grand quartier de Carcassonne. Je ne sais plus à quelle occasion, tous les sous-officiers du régiment, nous étions alors sergents, Babylas et moi, furent invités à un grand repas du corps qui se donnait dans une immense salle, un des greniers de l'hôtel de ville. Était-ce que l'on avait trop bu? Où cela tenait-il au soleil torride, je ne sais. Toujours est-il qu'avant le dessert, nous étions tous, parlant par respect, sous comme des givres. Babylas, excepté, bien entendu. Et tout à coup, le cri « au feu !» retentit. Un bol de punch enflammé s'était répandu à terre. La flamme avait pris un rideau, puis à deux, puis à une très mince cloison qui brûlait comme des copeaux. En peu de minutes, l'incendie éclatait, et tous les convives, subitement dégrisés, descendaient quatre à quatre les 100 marches qui les séparaient du plancher des vaches. L'Est est d'ailleurs en pleine possession de sa raison. Babylas fut un des premiers sur la grande place. Et là, on se compta. Un seul manquait à l'appel. C'était moi, qui, plus gris encore que les autres, avait glissé sous la table où je roulais comme une toupie d'Allemagne, sans plus me préoccuper de l'incendie que du Vésuve ou de l'Etna. Dès que Babylas eut constaté mon absence, sans se l'expliquer précisément, il s'élança dans l'escalier, gravit en quelques secondes les 4 étages et aborda au grenier. Presque étouffé par la fumée, il ne savait où se me chercher lorsqu'il eut l'idée de regarder sous la table. Oh, je suis 2 fois gros comme Babylas. Il semblait que cette imperturbable ivresse me gourdit encore. Mais que ne peut la charité? Babylas me tire de ma retraite où les flammes allaient me réveiller. Il me charge sur ses épaules et au moment où il franchissait la porte de la salle, une poutre enflammée se détache du plafond et lui fait à la jambe une terrible brûlure. La douleur lui arrache un cri, mais l'amitié lui donne des forces. Clopin clopant, avec une rapidité prodigieuse, il dégringole les 4 étages et vient littéralement tomber sur la place. Quand il m'eut déposé entre les mains des camarades, il se trouva mal. Longtemps sans connaissance, il ne revint à lui que pour apprendre que sa jambe était brûlée et cassée. et si mal cassé qu'il n'y avait point à songer à la remettre. L'amputation était absolument nécessaire et urgente. Il la supporta en brave et en chrétien. Longtemps sans connaissance, il ne revint à lui que pour apprendre que sa jambe était brûlée et cassée, et si mal cassée qu'il n'y avait pas songé à la remettre. L'amputation était absolument nécessaire et urgente. Il la supporta en brave et en chrétien. Ce qui est plus beau et plus rare que le courage, c'est la bonne grâce et la simplicité avec lesquelles il me pardonna toutes les misères que je lui avais faites. Et ce dernier accident dont j'avais bien été, sinon absolument la cause, du moins l'occasion, que dis-je, qu'il me le pardonne. Il semblait qu'il m'aimait davantage. Depuis qu'il avait tant souffert pour moi, j'avais, moi, vous le pensez bien, une désolation, un désespoir inexprimable. Babylas, que j'aimais maintenant de toutes mes forces, s'attachait à me consoler. Rigolet en était là de son récit. Lorsque Babylas, arrivant à pas de loup, vit tout de suite quoi il retournait. « Oh, je t'y prends, dit-il, mon vieux camarade !» Et comme j'allais parler, et qu'il surprit sur mon visage des accès d'une vive émotion, « Voyons, mon cher monsieur, dit-il, parlons donc un peu raison. Rigolez-moi. Rigolez, me tenait rigueur. Grâce à cette petite amputation, il est devenu mon ami, dévoué. Il est devenu surtout l'ami de celui que j'aime par-dessus tout et par-dessus tous. N'ai-je pas fait mon marché d'or ? Vrai, il me semble que je suis tout prêt à recommencer. J'ai encore une jambe, des bras, des yeux, sans compter mes oreilles et surtout ma tête. Et si pour chacun de ces membres, je pouvais gagner une à une à ma Dieu, vous croyez que j'hésiterais ? Puis, comme s'il sortait d'une extase, il sourit légèrement et parla d'autre chose.